La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans les formes, les couleurs, les matières et les espaces cette semaine dans la Compagnie des œuvres, avec les portraits de quatre femmes architectes et designeuses qui ont marqué leur époque d'une empreinte indélébile et influencé l'histoire de leur art. Eileen Gray, par exemple, dont nous parlait hier Tim Benton, nous a laissé une maison moderniste enchanteresse perchée sur la Méditerranée à Roquebrune-Cap-Martin, la villa E1027. Ray Eames, dont Maryse Quinton nous racontera demain le parcours, a conçu avec son mari Charles des chaises qui meublent un nombre croissant d'intérieurs contemporains. Quant à Zaha Hadid, elle a su faire de ses immeubles des œuvres qui paraissent toujours en mouvement, comme nous le verrons jeudi avec Richard Scoffier ainsi qu'avec Odile Deck. Et aujourd'hui,
c'est la vie qui amène la couleur. On est dans des espaces qui sont traversés constamment par la couleur des fleurs, des tableaux, des amis qui arrivent avec un pullover jaune et on trouve que leur pullover est magnifique. On est bien content dans cette chambre grise qu'elle soit traversée par une silhouette en jaune. Mais la couleur, elle est justement, c'est pour l'accueillir que je m'en sers pas. Donc c'est parce que je pense qu'aucun endroit ne se termine, on ne finit aucun des endroits qu'on fait, parce que on se contente de le préparer pour qu'il vive sa propre vie, et sa propre vie va fatalement amener la couleur. C'est ça mon explication.
Aujourd'hui, pour évoquer André Poutman, architecte d'intérieur et designeuse, souvent associée au noir et blanc, nous sommes en votre compagnie, Sylvie Santini. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé à L'Express, également à Paris Match. Vous écrivez sur l'architecture, le design, mais aussi sur la politique, hein, puisque vous avez publié une biographie de Michel Rocard aux éditions Stock en 2005. Et on vous invite aujourd'hui pour votre biographie d'André Poutman, que vous avez titrée « La diva du design » aux éditions Talendier. Alors, tout comme Eileen Gray, dont on parlait hier, André Poutman, c'est une femme dont la vie se confond avec le travail, et on s'en rend compte à presque toutes les pages, finalement, de votre livre.
Vous parlez d'Eileen Gray, j'ai écouté l'émission hier, et d'Eileen Gray, André Poutman disait que c'était la déesse de sa vie professionnelle. En fait, elle avait deux déesses dans sa vie, sa mère, pour qui elle avait une quasi-vénération et qui lui avait donné le goût de la musique, qui a constitué le début de sa vie active, disons, et Eileen Gray, dont elle a commencé à rééditer des pièces au début de son activité d'architecte d'intérieur, qui n'a commencé qu'en 1978, elle avait 53 ans. Donc elle a fait beaucoup de choses avant.
Dans le même domaine, quand même.
Ah non, pas strictement dans le même domaine. C'était une femme. Elle a été journaliste, pour commencer. Bizarrement d'ailleurs, elle disait qu'elle avait été grouillot dans des rédactions. Or, elle a été un peu plus que grouillot, parce que j'ai retrouvé des articles qu'elle écrivait dans un magazine qui s'appelait Femina, qui est l'ancêtre du supplément actuel Femina, du journal du dimanche, qui était un journal pour la vie pratique après-guerre. Le premier numéro est sorti en 51, donc c'était une époque encore difficile, où le rédacteur en chef de ce magazine disait qu'il voulait faire en sorte que les femmes, même pour qui les choses avaient été facile avant, arrive à se faire des choses elle-même. Enfin, donc c'était un magazine très pratique. Et elle s'occupait de la rubrique déco, donc elle portait pas seulement les cafés. Ensuite, plus tard, elle a aussi fait des articles pour une magnifique revue qui était L'Œil, qui a été vraiment une revue très précurseur dans le domaine de tous les arts décoratifs et des arts en général.
Qui existe toujours d'ailleurs.
Et qui existe toujours, mais voilà, qui faisait ses débuts à cette époque-là. Et donc voilà, elle a été journaliste. Ensuite, elle a été un peu dénicheuse de tendances. Elle a travaillé pour la centrale d'achat de Prise Unique et quelque chose qui s'appelait le style Prisu à l'époque et qui était là encore dans les années à la fin des années 50, c'était tout d'un coup introduire la couleur, le pep, le plastique, enfin tout un tas de matériaux et de
la
couleurs
modernité.
Très la modernité dans des intérieurs qui étaient encore très compassés. Et de là, elle a participé à la première agence de style et de tendance qui s'appelait Mafia, qui avait été créée par deux femmes. Là encore, elle chinait, elle trouvait des objets qui étaient des objets susceptibles soit d'être réédités, soit d'être transfigurés, transformés dans de nouveaux objets, toujours modernes et d'avant-garde. Ensuite, elle a travaillé dans la mode dans les années 70 par une rencontre assez providentielle qui a été celle de Didier Grimbach, qui était un héritier Mendès, enfin de la famille Mendès France, mais donc qui fabriquait pour Saint-Laurent. Et qui voulait, dont le rêve réalisé, était de transformer ce qu'on appelait seulement les stylistes à ce moment-là et qui n'étaient pas connus, parce qu'on connaissait les marques, pardon, les fabricants, mais on ne connaissait pas les stylistes. Et est venu le règne des créateurs, grâce à André, là encore.
Alors, 1978, c'est la création donc de Écart International, ce qu'on pourrait appeler une agence de design.
Design, pas exactement, non. Plutôt de ce qu'elle a fait à ce moment-là, en 78, c'est qu'elle a commencé la réédition de ce qu'elle appelait les réprouvés, enfin de créateurs des années 30, dont les œuvres avaient été peut-être célébrées dans les années 20-30 et étaient tombées dans l'oubli, à commencer par Eileen Gray, justement, et Mallet Stevens, dont elle a réédité la fameuse chaise en métal qui est devenue iconique de son savoir-faire et de son agence, Écart. Et donc il y avait ça, une activité de réédition et puis d'aménagement des espaces. Au début, beaucoup de magasins. Elle a fait la première boutique de Thierry Mugler, Place des Victoires, qui était une merveille, beaucoup plus onirique d'ailleurs que ce qu'ont été ensuite ses autres créations. Et puis elle a fait des boutiques elle a fait plein de boutiques pour Saint-Laurent grâce à son ami Didier Grimbach encore. Et puis des intérieurs. Alors elle avait déjà en fait réalisé, agencé des espaces, des appartements, mais d'abord le sien, enfin celui qui était devenu son mari Jacques Poutman et d'elle-même, et celui d'un grand ami qui était comme son frère et qui était Michel Guy, qui a été un ministre de la Culture assez notoire.
Qui était aussi le président du Festival d'automne,
absolument.
Directeur du Festival d'automne.
Oui, avant même d'être ministre d'ailleurs. Et avec lequel d'ailleurs elle courait les salles de spectacle, toutes les premières de Bob Wilson, elle a découvert Bob Wilson avec lui.
Mais alors, ce que je comprends, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que vous venez de nous dire, Sylvie Santini, qu'il va falloir reprendre un petit peu les unes après les autres. Il n'y a pas d'âge pour devenir designeuse, alors? Il n'y a pas d'âge, finalement, pour rentrer dans ce métier-là? Bon, on sent quand même, dans la trajectoire que vous venez de nous donner, que tout est lié à la question du style, à la question des formes, à la question du beau, dans le parcours de Poutman. Mais elle ne devient vraiment elle-même que en 1970. 18, sachant qu'elle est née en 1925, donc en effet assez tard déjà dans sa vie professionnelle.
Elle a en fait deux vies professionnelles. Enfin, l'une qui est peut-être plus chaotique avant de devenir vraiment architecte d'intérieur en 78, avec tous les métiers que j'ai décrits. Et peut-être n'était-elle pas à ce moment-là poussée par la nécessité au point où elle l'a été en 78. Car 78, c'est aussi 1978, c'est l'année de la séparation d'avec Jacques Poutman.
Alors on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais prenons peut-être les choses par le début, c'est-à-dire par l'enfance.
J'ai très très mal vécu de pouvoir rencontrer ou connaître ou croiser, comme pas adolescente, j'avais 15 ans, des gens qui se réclamaient de Vichy, des gens qui pensaient que les Anglais allaient perdre la guerre. Et moi, ma mère me disait que je n'étais plus sortable, par exemple, pour la guerre, parce que je pouvais quitter la table au premier mot qui ne me plaisait pas. Donc j'étais une rebelle, vraiment. Je sais que j'étais une rebelle.
Et cette rébellion s'est manifestée finalement...
De beaucoup de façons. Bon, alors il y avait la musique, ça c'était aussi très dicté par la mère, qui n'avait pas fait la carrière qu'elle aurait pu faire. Enfin, elle était même... Elle avait une carrière prodigieuse, elle n'aurait pas été une des bonnes, elle aurait été peut-être une des meilleures, sinon la meilleure. Elle était tout à fait extraordinaire. Et je pense que c'était une frustration immense. Elle a décidé que ses deux filles seraient de très grandes musiciennes. Et un peu trop tôt, on a été au concert 3 fois par semaine, au Prado à 4 ans. On a été surchauffés, la petite sœur et moi. On nous a trop poussés. C'est pas qu'on voulait faire de nous des enfants prodiges, mais nous étions des consolations potentielles. Et ça, c'est très très lourd à porter.
Entretien avec Marie-Christine Navarro en 1991. Il y a déjà de la gravité chez André Putman, gravité de la voix qui frappe immédiatement, la voix de fumeuse. On racontera peut-être comment elle a beaucoup fait la fête un peu plus tard, Sylvie Santini. Gravité aussi sur le regard qu'elle porte sur son enfance et les relations qu'elle avait avec sa mère, à la fois enchantée puis en même temps poussée comme ça, peut-être un peu trop poussée.
Oui, et moi ce qui me frappe quand je l'ai écouté évidemment très souvent, et ce passage-là particulièrement, et elle a cette voix incroyable, enfin une voix à la Jeanne Moreau, une voix très... Et elle s'exprime extrêmement bien, enfin c'était quelqu'un qui maîtrisait le verbe, qui avait une phraséologie très particulière, une diction, une articulation presque de femme de scène, mais...
C'était un peu une femme de scène à la ville aussi, hein.
Oui. Elle était très théâtrale, en fait, oui. Mais elle tenait cela, justement, de sa mère, hein, dont elle parle beaucoup. Sa mère, dont elle parle, en effet, comme d'une musicienne prodigieuse. L'était-elle vraiment? Je ne sais pas. Je pourrais peut-être parler plus tard de ce qu'elle a raconté sur ses propres capacités musicales, qui n'étaient peut-être pas exactement celles dont elle parlait, enfin, dont elle se revendiquait, qu'elle revendiquait. Mais... la mère avait un langage aussi très très particulier, très poétique, d'après ce qu'on m'a raconté, et certaines lettres aussi que voilà dont on m'a parlé. Et elles sont élevées, alors en effet, dans un milieu qui est la grande bourgeoisie d'origine lyonnaise. Enfin, elle née à Paris, mais son grand-père, Édouard Hénard, a sa statue, place de la Bourse à Lyon, a été député, a été régent de la Banque de France, est une grande personnalité. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a racheté à la famille de sa femme, les Montgolfier, l'abbaye de Fontenay, dans lequel André a passé toutes ses vacances d'enfant. Donc ses vacances, c'était l'abbaye, donc c'était chez les moines. Ça forge quand même à la fois un regard, une écoute, et puis un monde spirituel, peut-être, même si l'abbaye était bien sûr désacralisée. Et puis la musique. Et la musique, en effet, où la mère était une forcenée, d'après ce qu'on m'a raconté.
Alors, sur l'abbaye, on peut citer cette phrase de Putman en 1993 au cercle de minuit. Vous la citez vous-même dans votre livre. « J'ai passé une enfance sans doute dorée, mais assez étrange. À 15 ans, sous l'occupation, je vivais seul dans une abbaye cistercienne qui appartenait à ma famille. » En effet, c'est à la fois quelque chose qui vous rapproche sans doute d'une forme de spiritualité qui doit vous faire vous sentir aussi très à part, alors peut-être très isolé, mais peut-être aussi un petit peu élu.
Oui, elle se demandait, d'ailleurs elle disait qu'elle se demandait, quand elle était petite dans cette abbaye, si sa famille avait chassé les moines pour l'occuper. En fait, c'est la Révolution qui a chassé les moines, et donc l'abbaye a été désacralisée à ce moment-là, est devenue une papeterie, a été rachetée par un montgolfier, et la famille de montgolfier, c'était à la fois les montgolfières, et le papier, la papeterie. Bon, l'industrie papetière a périclité à la fin du 19e siècle, et c'est à ce moment-là que donc Édouard Hénard, grand-père d'André Hénard, devenu Putman, a racheté l'abbaye à la famille de Rose de Montgolfier, qui était sa femme.
J'ai passé ma vie à vider les endroits et j'ai compris, il y a 10 ans, d'où ça venait. C'était de ces mois passés chaque année à l'abbaye de Fontenay, qui finalement est probablement un des lieux les plus importants de ma vie, puisque il a totalement formé mon goût, et j'ai plus aimé que les choses totalement austères, et aussi la douceur des courbes, habillées en manne, d'une pureté incroyable. Mais je trouvais scandaleux que nous habitions là, je trouvais ça. J'étais d'ailleurs constamment indigné. C'est quelque chose qui m'a construit, mon indignation, la façon dont on traite les gens, la façon dont on parle des pauvres, tout ça m'a absolument traumatisée quand j'étais petite. Et j'aurais dû avoir ma carte au Parti communiste à 18 ans. Mais bon, c'est pas arrivé.
On imagine quand même assez mal André Putman au Parti communiste. Vous ne trouvez pas, Sylvie Santini? Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette déclaration, comme dans beaucoup d'autres, un côté un peu à l'emporte-pièce?
Oui, un côté très très exagéré, quoi. Comme elle était, c'était une femme qui était, un de ses amis disait, Jean-Louis Froment, qui était grâce à qui elle a fait le CAPC, le Musée d'Art Contemporain de Bordeaux, disait cette femme est trop. En fait, elle était trop. Alors, ça me fait un peu rire le Parti communiste, parce que dans une autre interview, elle disait qu'elle était émotivement à gauche, ce qui est quand même beaucoup plus chic. Et bon, elle était plutôt cataloguée parmi ce qu'on appelait voilà, les gens de la gauche caviar. Mais bon, il se trouve qu'en plus, elle a fait le bureau de Jack Lang, ministre de la Culture, qui était une merveille, un bureau en sycomore, en courbe, très beau. Elle a fait ensuite du mobilier pour les finances à Bercy, au début des années 90. Voilà, et il se trouve qu'elle allait à quelques meetings, mais son sens du social n'allait quand même pas jusqu'à militer pour quelque parti que ce soit, et même pas au Parti Socialiste, en effet. Mais...
Et puis alors, aujourd'hui, on la considérerait pas comme une grande écologiste, puisqu'elle prenait l'avion à peu près comme vous et moi, on prend le métro.
Oui.
Le Concorde, de préférence.
Oui, absolument. Oui. D'abord, elle disait qu'elle ne pouvait voyager que en première, parce que c'était comme les enfants qui veulent être au premier rang dans les autobus pour aller en classe, c'est mieux d'être au premier rang. Bon, c'est-à-dire en première, quoi, first.
D'ailleurs, elle a même redécoré le Concorde.
Elle a redécoré le Concorde en 93. Elle a décoré aussi une partie du Sheraton de Roissy Charles de Gaulle. Et le Concorde, oui, c'est-à-dire que c'était Raymond Leouis qui avait fait le premier design du Concorde initial, et elle l'a relooké, revampé, comme disent les Américains. Et elle a énormément travaillé à New York aussi. C'est un peu ce qui a fait sa gloire, d'ailleurs, au début des années 80.
Mon travail n'est pas... c'est très ambigu. Il plaît aux étrangers. C'est pas de la fausse modestie. Parce qu'il est, à leurs yeux, plus français que français. Il pense que je suis la parisienne type. Pas du tout mon avis, mais c'est comme ça que je suis perçue. Mais à Paris, je suis considérée, aujourd'hui tout a changé, mais j'étais considérée comme quelqu'un de très excentrique, d'assez difficile, qui défendait des idées indéfendables dans certains domaines et qui était parfois choquante. Alors, l'idée que c'est ça qui était mon sort, la façon dont je t'ai perçu à l'époque, qui a fait que les étrangers se sont intéressés à moi, et d'abord les Américains, puis les Allemands, puis les Japonais, C'est drôle. Les Américains ont quand même cru que j'étais très très connue en France, parce que j'allais souvent à New York pour d'autres raisons que le travail. Et après, les Français se sont dit, mais nous avons une petite dame, un peu grande d'ailleurs, mais nous avons une dame à Paris qui a l'air de très très bien réussir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors j'ai entendu des phrases, ben, il paraît que vous faites des lieux qui ressemblent à des cliniques et qui ont un charme fou. Un écrivain m'a dit ça un jour. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit, ben oui, pour les Français, dès que c'est simple, ça ressemble à une clinique.
Doctor stared at the floor. I could hear my breath. My breath breathing loud.
La compagnie des heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier, Sylvie Santini, cette expression de style français appliquée au travail de Putman? Qu'est-ce que les Américains trouvent tellement français ou trouvaient tellement français dans son travail?
Je pense qu'il trouvait qu'elle-même était terriblement française et parisienne. En effet, c'était l'incarnation du chic français. D'ailleurs, elle avait même fait, elle a même fait une publicité pour Gap. Elle figurait sur les abribus de New York avec un chemisier Gap. Enfin, et c'était très très chic. Photo d'Annie Leibovitz. Enfin, et ces lieux étaient en effet, elle a imposé quelque chose au début des années 80 qui n'était pas usité, qui était des lieux assez dépouillés. L'esthétique du loft, alors le loft, cela dit, se faisait, se pratiquait, se vivait déjà à New York avant Paris, mais avec des couleurs assez atones, ou bien pas de couleurs, ou bien du noir et du blanc. Et ce qui a marqué les esprits, en effet, c'est l'hôtel Morgans à New York qu'elle a fait avec très peu de moyens, parce que les promoteurs de l'hôtel n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc avec du noir, du blanc, des carreaux qui étaient des carreaux, ce qu'elle appelait les carreaux de HLM, enfin du grès céram. Et tout ça, ce dépouillement, alors que l'incarnation de la France, finalement, souvent, ça passe pour être Versailles, c'est-à-dire plutôt ostentatoire. Cette simplicité est devenue aussi quelque chose de très chic et de très français.
Et finalement, c'est peut-être, au contraire, le côté très géométrique de Versailles qui se retrouve dans le travail de Putman, le côté très symétrique aussi des jardins de Lenôtre, par exemple. Donc la symétrie, la géométrie, une certaine forme de sobriété, l'usage du gris, le noir et le blanc, c'est peut-être ça que voulaient dire les Américains ou que percevaient les Américains.
Oui, vous avez raison, oui. La géométrie, et sans la pompe, en effet, qu'on trouve aussi à Versailles ou dans d'autres châteaux français. Et puis, bon, peut-être aussi, c'était vraiment elle. Elle était, je crois que c'est une femme qui s'est érigée au fil des années en image de marque de son style architectural, enfin de son style décoratif. Elle n'aimait pas le mot décoration et décorateur, mais néanmoins, c'est ce qu'elle était. Elle n'était pas architecte. Elle ne savait pas dessiner. Enfin, ça, c'est encore peut-être un autre chapitre.
Oui. Mais... Alors, le vide, c'est donc une des marques de fabrique de André Putman. C'est même le fil rouge de toute sa carrière. Est-ce que vous diriez ça?
Oui, à plusieurs points de vue. Sur un plan personnel, elle a connu ce qu'elle appelle des éboulements, beaucoup de vide, soudain, dans sa vie. Il y a eu un accident très grave à 17 ans. Elle est tombée de 5 mètres dans le métro, sous l'occupation, la nuit. Bon, il y a eu le vide de sa séparation avec Jacques Putman en 1978. Voilà, ça, ce sont des vides très personnels. Et elle disait à ce moment-là qu'elle était dans un trou noir et qu'elle redémarrait une page blanche. Et puis, le vide, c'est la manière... Le vide, c'est ce qu'elle a connu aussi à Fontenay, dans l'abbaye. Et ça, vraiment, je pense que ça a forgé son regard et que quand, beaucoup plus tard, au début des années 80, Jean-Louis Froment lui a demandé d'aménager le Centre d'art contemporain de Bordeaux dans d'anciens entrepôts de marchandises, une sorte de cathédrale, en fait, donc un lieu qui peut avoir aussi peut-être pas de spiritualité puisque c'est le commerce.
En tout cas, qui est très haut de plafond, voilà. Et qui ressemble en effet à une église.
Et on a du mal à imaginer qu'en y pénétrant pour la première fois, elle n'ait pas eu l'impression de pénétrer dans l'abbaye de son enfance.
Et qu'est-ce qu'elle y a fait alors ?
Alors elle y a fait, elle a fait justement ses couleurs, un peu des taupes, des gris, enfin des couleurs un peu atones, et puis du mobilier, une signalétique de musée, du mobilier auquel elle a donné parfois d'ailleurs des noms un peu liturgiques, puisque les petits pupitres sur lesquels est apposé le panneau de signalisation s'appellent un lutrin. Et puis, il y avait des suspensions lunes, enfin, voilà, un vocabulaire, elle a toujours eu un vocabulaire assez poétique.
Il y avait aussi des bancs éléphants.
Et les bancs éléphants.
Qu'est-ce que c'est le banc éléphant ?
Alors c'est un banc public en fait, voilà, avec ses lamelles de bois, mais qui avec un très très haut dossier qui se relève en courbe. Et d'ailleurs une de mes amies qui ne la connaissait pas particulièrement, mais pensait que c'était l'emblème de sa coiffure parce qu'elle avait un cran aussi comme ça. Et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à cette analogie.
Ce serait son mais profil alors finalement le banc éléphant avec cette mèche si caractéristique.
Oui, pourquoi pas, c'est amusant.
On reconnaît presque autant que ce qu'a été ensuite le catogan de son ami Karl Lagerfeld.
Absolument. Ben, elle s'est vraiment d'ailleurs. Enfin, on la compare souvent à Coco Chanel, mais je pense que pour le sens du label et de l'image de marque, enfin de la personnification d'une marque, c'est vraiment Karl Lagerfeld qui était son ami, puis son ennemi par moment, mais qu'il faut la comparer.
Le vide, c'est peut-être aussi ce qui n'a pas été dit dans son enfance. C'est peut-être l'enfant mort, le frère mort. Il y a comme ça tout un côté un petit peu caché, enfin en tout cas pas vraiment explicitement dit dans la légende familiale.
Oui, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dites et il y en a d'autres qu'elle a dites et qui sont fausses. Mais donc elle n'a pas dit en effet que... Ou elle l'a dit peut-être une fois, enfin en tout cas dans une interview j'en ai trouvé la trace. Bon, j'ai pas tout lu, mais elle a un frère qui est né... elle est née, elle, 9 mois après le décès d'un petit frère, d'un bébé qui est décédé à 6 mois. Donc c'est...
Elle aurait été conçue le jour de la mort
Le jour du décès du nourrisson. Et en plus, et ça elle l'avait quand même souligné une fois, en plus on l'appelle André, et André c'est quand même un prénom masculin-féminin. Enfin. Et ensuite elle n'a pas dit non plus que c'est son père d'une part et sa mère d'autre part avaient déjà été mariés et avaient des enfants. Donc elle était en fait, elle avait un demi-frère et une demi-sœur d'un côté, une demi-sœur de l'autre. Et quand elle dit, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, qu'elle était notamment sous l'occupation, seule dans cette abbaye, occupée par des Allemands, elle n'était pas exactement seule parce qu'il y avait la grande sœur en question, qui avait 12 ans de plus qu'elle et qui, à l'époque, était déjà même mère de famille. Donc, et ça, elle n'en parle pas. Elle parle à peine de sa vraie sœur, si je puis dire, enfin de... Agnès qui vit encore, qui a 2 ans moins qu'elle, et elle en parle très peu. Enfin, se voyaient peut-être pas beaucoup dans le courant de leur vie d'adulte, même si elles se sont évidemment sûrement beaucoup aimées et vues jeunes. Mais et voilà, donc tout ça c'est du non-dit.
Donc c'est du non-dit, puis c'est un peu de la légende aussi, parce que ce qui revient beaucoup quand on lit votre livre Sylvie Santini, c'est voilà cet aspect un petit peu d'histoire, de se construire soi-même un personnage, voire de faire de sa vie un roman. Vous disiez tout à l'heure que vous reviendriez sur la musique et son rapport à la musique. Est-ce que là encore, elle a un petit peu enjolivé les choses ?
Ah oui, beaucoup. Et ça continue de me surprendre parce que elle a mais répété à l'envi que elle était premier prix d'harmonie, c'est-à-dire de composition musicale au Conservatoire de Paris, et que Francis Poulenc en personne lui avait dit, si vous travaillez encore 10 ans, si vous vous isolez pendant 10 ans avec vos partitions, peut-être un jour serez-vous une grande compositrice, et que de là elle avait décidé que non, c'était pas la peine et qu'elle était passée à autre chose. Bon, moi j'ai vérifié parce que comme ça, mais un peu par automatisme. Enfin, je n'ai pas pensé une seconde que le Conservatoire de Paris allait me répondre qu'elle n'avait jamais été inscrite en composition ni en harmonie, qu'elle était en effet entrée au Conservatoire en 1945, donc elle a déjà 20 ans. et que elle, à partir de 51, il n'y a plus aucune trace d'elle. Elle n'a pas été très présente et elle a eu une première médaille de solfège et une mention en musique de chambre. Donc elle n'a jamais eu de premier prix d'harmonie et elle n'a pas rencontré Francis Poulenc qui n'était dans aucun jury non plus. J'ai regardé tous les registres. Donc c'est très curieux parce qu'elle n'avait pas besoin de cela pour se légitimer.
En tout cas, elle a dessiné un piano à la fin de sa vie, un piano chez Pleyel.
Oui, qui s'appelait Voie lactée. La dessine. Alors, elle était déjà, c'était en 2008, si je me souviens bien, donc elle est quand même déjà très âgée. C'était un moment où ses enfants ont commencé à intervenir dans la société André Boutman. Et le piano est avec des touches noires et blanches, bien sûr. Et elle disait elle-même, de toute façon, de ses propres créations, de ses agencements, que ses projets étaient des portées avec beaucoup de notes qui tenaient sur 5 petites lignes. Donc, elle a joué toute sa vie sur ce fil musical, en fait, pour relier la musique. Mais il y a de la géométrie, comme vous parliez de géométrie tout à l'heure, il y a de la géométrie dans la musique, bien sûr. Et voilà, donc elle a fait le lien toute sa vie, mais elle n'était pas obligée d'inventer un premier prix pour cela.
À 20 ans, j'ai obtenu de vivre dans un grand espace qui m'était complètement destiné, qui était indépendant et où il n'y aurait rien de la famille, comme je disais. Moi qui aimais tellement mes parents, c'est quand même l'idée, rien de la famille. Et puis, je me suis beaucoup informé. J'ai suivi quantité de choses qui pouvaient se passer. Ça ne se passait pas beaucoup, mais il y a eu Charlotte Perriand, il y a eu des découvertes de luminaires de Noguchi, boulevard Raspail, vous voyez ces colonnes de lumière en papier. J'ai découvert très très tôt cette femme, Eileen Gray. J'ai remarqué très tôt quelques images parcimonieuses qu'on pouvait voir de la maison de Pierre Charot, la maison de verre, rue Saint-Guillaume. Et j'ai constaté, alors là, avec épouvante, qu'on ne s'intéressait pas à ces gens. Et qu'à la limite, les grands mouvements comme le Bauhaus, il en restait tout, ou presque. Mais les visionnaires, les solitaires, les cinglés, les hypocondres, Driac, ils étaient balayés. On ne savait plus rien sur eux.
Donc sa formation, finalement, Sylvie Santini, c'est elle-même qui se l'a fait en regardant déjà ses parents qui étaient artistes quand même un peu à leur façon, et puis en regardant les grands aînés.
Oui, parce qu'elle feuillette des revues. Elle a ils habitent assez tôt, enfin rue de l'Abbaye à Saint-Germain-des-Prés, et elle
encore
raconte.
Une abbaye.
Oui, encore une abbaye. Et oui, et s'il n'y avait que celle-là, parce qu'ensuite, son bureau rue Saint-Antoine était à côté de l'église Saint-Paul. Son cousin, quand il descend à Paris, vient toujours à l'hôtel de l'abbaye. Enfin bon, elle a passé sa vie, en effet, je crois, près de lieux dont le nom évoque cloître, église ou abbaye. Mais bon, c'est un peu anecdotique, mais bon, c'est son karma, quoi, quelque part. Mais.
Et donc, je vous ai un petit peu coupé, mais cette idée que la formation de André Boutman, c'est une formation presque d'autodidacte, mais c'est quelqu'un qui savait finalement repérer ce qui, avant elle finalement, avait été peut-être un petit peu oublié, mais qui avait quand même une grande valeur.
Oui, elle a une sorte de flair, oui, un sens, et donc rue de l'Abbaye, ils s'installent en face de leur appartement, le premier magasin Knoll en France, où elle découvre en effet les meubles de Miss Van der Rohe, les lampes de Noguchi, et c'est là qu'elle obtient de sa mère, là encore elle le raconte souvent, mais qu'elle obtient de sa mère le droit de vider entièrement sa chambre et qu'elle y installe une affiche de Miro, un fauteuil de Miss Van der Rohe, un petit lit napoléonien, ça qu'elle devait déjà avoir, enfin voilà, mais assez strict. Et plus tard, elle, Elle est assez pionnière dans ses choix quand elle va voir au début des années 50 les pièces de Beckett, quand elle va voir Bob Wilson un peu plus tard, et elle emmène sa mère qui vit quand même dans un monde beaucoup plus ancien que le sien, enfin à tout point de vue, puisque en plus ses parents l'ont eu très tard, puisque c'était en deuxième noce. Donc
en fait, on peut dire que elle a vraiment vécu dans un milieu très rapidement, qui était le milieu d'une certaine avant-garde parisienne et en particulier de l'avant-garde esthétique.
Ah, complètement. Oui. Dès les années 50. Et c'est en cela, alors quand elle dit rebelle, c'est un bien grand mot. Disons qu'elle contrevient au code de son milieu, des amis de sa mère, en gros. Et que quand elle met une toile de Bram Van Velde, à partir du moment où elle connaît Jacques Putman en 51, Jacques Putman qui deviendra son mari, qui est déjà marié mais qui divorcera et qui deviendra son mari, est vraiment le supporter de d'Alechinski et de Bram Van Velde, qui sont des peintres inconnus à l'époque, extrêmement novateurs, non figuratifs bien sûr. Et quand elle installe ça dans la chambre, les amis de sa mère sont horrifiés, mais bon, sa mère accepte, sa mère tolère que sa fille soit anticonformiste et très différente du milieu dans lequel elle a été éduquée.
Et Beckett alors, qu'est-ce qu'elle trouve dans l'écriture de Beckett, dans les histoires, si l'on peut dire, de Beckett ?
Elle le connaît par son mari et je ne sais pas si elle a eu une grande proximité avec Beckett. Jacques Putman en avait une. On m'a raconté que d'ailleurs, Jacques Putman, qui parfois pouvait être un peu neurasthénique, aurait aimé écrire, et que du jour où il a lu les écrits de Beckett, il a considéré que puisque c'était exactement ce qu'il voulait faire, et que puisque c'était déjà fait, mais voilà.
C'est un peu ce que fait André Putman elle-même, en rééditant donc Fortuny, Malé Stevens, Aileen Gray, on l'a beaucoup dit. Il y a ce côté quand même patrimoine, donc il s'agit de réinventer le patrimoine, et puis il y a aussi cette idée que ses œuvres sont tellement grandes qu'au fond, c'est presque un peu décourageant. Il vaut mieux, puisque tout a été inventé, il vaut mieux y retourner et se ressourcer directement de là où ça vient.
Oui, peut-être. Parce qu'en effet, à une époque, parce que ça, elle le fait, disons, au début des années 80, et qui sont des années, au contraire, très, très pop, avec beaucoup de couleurs, un design pittoresque, baroque. Enfin, c'est les Italiens du groupe Memphis qui sont... Or, elle revient à un minimalisme qui est celui, une pureté, un dépouillement et un minimalisme qui est celui, en effet, des années 20 et 30. Et elle s'inspire aussi d'un architecte d'intérieur qui est Jean-Michel Franck.
Qu'elle admirait énormément, mais qui est un peu oublié sans doute.
Qui est un peu oublié à ce moment-là. On a beaucoup renoué avec lui depuis. Mais d'ailleurs, le sous-titre d'une des biographies de Jean-Michel Franck, c'est L'étrange luxe du rien. Et on pourrait se dire que c'est un peu pareil pour André Putman. D'autant qu'il était quand même considéré, son travail se vendait assez cher dans son agence. Et que de Jean-Michel Franck, on disait qu'il mettait ses clients sur la paille parce qu'il adoptait les revêtements de paille sur les murs. Et qu'elle aussi utilisait la paille et le cuir dans certains revêtements. Et qu'on pouvait dire, ironiquement, on pourrait dire la même chose d'André Putman. Mais donc c'est le luxe en effet, oui, du rien, je trouve que ça lui va assez bien aussi.
Et ce luxe qui est en effet très inspiré de la période Art déco, on reproche parfois un petit peu à cette période Art déco de n'être justement que luxe et d'être un design absolument exclusivement réservé aux gens qui avaient beaucoup d'argent. C'est cette période aussi des années 20 où c'est quand même mieux d'avoir de l'argent pour vivre bien, encore beaucoup plus que plus tard, que après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même vraiment cette espèce de luxe dont elle est l'héritière.
Oui, et paradoxalement, en même temps, elle disait que ce qu'elle voulait, c'était vraiment le beau pour tous. D'ailleurs, l'agence qui s'appelle Mafia et dans laquelle elle travaillait en 68, voulait vraiment mettre le beau à la portée de tous. Ses condisciples à l'époque avaient l'air de trouver, elle était plus âgée que tous les jeunes qui travaillaient dans cette agence Mafia, avaient l'air de trouver qu'elle, c'était pas vraiment son souci principal que de mettre le beau à la portée de tous. Néanmoins, elle, euh, Elle aimait souligner toujours qu'elle voulait associer les matières, le pauvre et le riche, justement, le lisse et le rugueux. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui aimait les contrastes, qui était elle-même, de toute façon, pétrie de paradoxes et de contradictions. Mais il y avait quand même peut-être l'idée qu'il fallait que le beau profite à tout le monde, mais en même temps avec une telle inconscience de l'argent, non pas qu'elle en ait beaucoup, sûrement pas même, mais elle ne s'est pas très concernée par le...
C'est ça qu'on appelle une diva, vous l'avez appelée la diva du design, même si elle n'aurait sûrement pas aimé qu'on l'appelle comme ça.
Moi je sais que quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère qui m'emmenait au concert, est-ce qu'il y a une première audition dans ce concert? Et elle ne comprenait à peine pourquoi c'était si important pour moi. Et c'était l'idée, en voilà un nouveau qu'on n'a jamais entendu. Donc il va nous surprendre, et c'était ça que j'aimais. Et je pense que j'ai aimé ça avec les arts plastiques aussi.
Alors, est-ce que c'est pour cette raison que lorsque vous commencez à connaître et puis ensuite vous accompagnez un peintre comme Bram van Velde, oui, par exemple, et le jour où c'est possible, où l'occasion s'offre de le faire
oui,
pas...
Oui, c'est tellement bien dit, c'est le jour où c'est possible. Un jour, il y a... Oh, mais on connaît Bram van Velde, on vit avec lui... Mon mari était très, très, a été considérable dans l'aide qu'il a apportée à Bram van Velde. Et il a pas fait ni pensé éditer des lithographies à l'époque, mais ma passion pour la diffusion d'une beauté pour tout le monde lui a fait penser que qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces magasins, très nombreuses succursales, qui nourriraient les gens de bonheur avec de l'art?
Alors là, il s'agit de l'époque où vous travaillez avec Denise Fayolle.
Voilà. Denise Fayolle, au fond, dans sa générosité, à mon égard, avait deviné que je pourrais peut-être amener des idées dans des milieux encore très fermés. Rien de brillant, c'était tellement passé pour ces gens. Et il y avait quand même déjà Alechinsky, avec Bram van Velde et bien d'autres. Et ça a été le début d'une considérable activité. Alors... pour Jacques Putman.
Jacques Putman, c'est l'homme de la vie de André Putman. C'est un garçon assez difficile, je crois, sans doute extraordinaire de culture et d'un rapport à l'art très très précis, très très fin. C'est quand même un couple chaotique et ça va avoir une influence, une incidence sur la vie psychique de André Putman, Sylvie Santini, de vivre avec cet homme-là.
Oui, sur sa vie psychique et sur celle des enfants qu'elle aura avec lui, qu'elle voudra avoir avec lui, malgré que Bram van Velde, je crois, l'ait mis en garde en lui disant « Surtout, ne faites pas d'enfants ». Mais lui-même avait très peur des enfants, et ses enfants, en fait, c'était les artistes qu'il chapeautait, et notamment Bram van Velde, qui a été presque comme l'enfant du couple. Il avait été l'enfant du couple précédent, que Jacques Putman formait avec Françoise Porte, qui est une dame qui vit encore, qui a été la première épouse de Jacques Putman. Et en fait, donc, il l'emmenait en voyage, il le finançait, il le logeait. Et ça a été très présent ensuite, en effet, ça a été pesant peut-être même pour André. Jacques Putman lui aurait enjoint de s'intéresser à l'art contemporain et que sinon elle était une conne, entre guillemets, enfin c'est le terme qu'elle répétait. Elle s'y est intéressée, elle a même financé en partie en achetant des toiles, enfin bon. Et Mais finalement, si elle a été chassée du domicile conjugal à un moment où, de toute façon, Jacques Putman avait fait sa vie avec une autre femme qui est devenue sa troisième épouse, mais si elle l'a été chassée de ce domicile magnifique de 800 mètres carrés rue des Grands Augustins, c'est parce que Bram Van Velde, revenant vivre à Paris après un petit exil sentimental en Suisse, avait besoin d'être logé et que donc Jacques Putman lui cédait son propre appartement dans le même immeuble qui était un 2 ou 3 pièces, sa garçonnière, et que donc il fallait que André déménage. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans le loft. Et...
Donc c'est de la goujaterie pour le moins. Et puis par rapport donc aux enfants, vous racontez un peu à demi-mot, mais enfin Cyril Putman s'est lui-même exprimé dans un livre. Il a lui-même raconté la vie avec ses parents. Donc c'était pas évident. C'était des parents plutôt absents. Bon, on n'est pas là non plus sans doute pour rentrer dans trop de détails. Parlons plutôt de l'élégance de André Putman. C'est vraiment un mot qui la caractérise. D'ailleurs, en 1993, elle a été élue la femme la plus élégante de l'année. C'était la même année qu'Inès de la Fressange et Carole Bouquet. Mais pour elle, l'élégance, c'était quoi? C'était une manière d'être un peu désinvolte? Qu'est-ce que
oui,
c'était?
Elle employait souvent le mot désinvolture, en effet. Et c'était d'abord très peu de choses. Elle, par exemple, elle qui était tout le temps, en effet, on l'appelait, un de ses amis l'appelait Putman Airlines, elle était tout le temps dans les avions. Et elle voyageait avec 5 kilos, avec un petit sac à dos, un autre à l'épaule. Et voilà, et elle arpentait les couloirs d'aéroport comme ça. Et avec très peu de choses, mais qu'elle pouvait assortir, toujours dans les mêmes teintes, le blanc, le noir, avec parfois une touche de bleu. Et des jupes, des tailleurs pantalons, ou bien des jupes sous le genou, des jupes crayons, des jupes assez cintrées, très tenues, très maîtrisées, et des vêtements de couturier, parce que comme elle a travaillé finalement dans la mode, quand elle a lancé des couturiers, on en a parlé à un moment, mais comme Issey Miyake ou Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Alaïa, qu'elle a vraiment lancé aux États-Unis, et ces gens étaient devenus des amis et lui prêtaient très facilement des vêtements.
Et alors, il y a aussi le moment où précisément, elle va pas ouvrir un magasin, mais lancer une sorte de concept store. Je ne sais pas s'il y avait des vêtements dans ce concept oui. store de la rue de Rennes qui s'appelait Créateur et Industriel. Peux-tu nous raconter un petit peu?
Oui, c'était dans une ancienne gare d'entrepôt de wagons de métro où c'était là où était le drugstore Publicis, en face de ce qu'était le drugstore Publicis à l'époque. Et donc c'était très haut de plafond avec des haubans, des poulies, et il y avait aussi bien des spaghettis, les meilleurs du monde, disait-elle, évidemment, que des objets de designer, comme Markel ou Pierre Paulin, qui étaient les designers débutants et célébrés néanmoins déjà à cette époque-là, et des vêtements aussi.
Donc elle commandait des objets.
Donc elle choisissait.
Elle choisissait.
Elle avait son cheptel de jeunes créateurs qui débutaient. On lui présentait des choses. Elle choisissait. Elle sélectionnait.
Un peu comme le magasin Colette.
Absolument.
Ça a
été le précurseur de Colette. Oui.
Mm-hmm. Est-ce que justement on n'a pas là quelque chose qui la caractérise bien, c'est-à-dire que elle choisit. Elle ne dessine pas, par exemple, elle-même les objets, mais elle assemble. Elle choisit, et c'est une autre manière finalement de travailler, de faire du design.
C'est ce qu'on appelait plutôt dans les années 30 ou 50, et elle détestait le mot, mais je pense que c'est le plus juste, c'est ce qu'on appelait les ensembliers. Mmh. Elle était ensemblière en fait, c'est-à-dire qu'elle-même, bon, elle ne dessinait pas en effet, donc à chaque fois elle a... À chaque étape de sa vie professionnelle, enfin de sa vie d'architecte d'intérieur, hein, donc à partir de 78, elle a travaillé avec un bras droit qui était un architecte diplômé, enfin ou bien un DPLG, un architecte comme était le premier Jean-François Bodin, ou bien un architecte des écoles Camondo et autres comme Bruno Moinard ou Elliot Barnes qui ont été ses bras droits successifs. Le problème, c'est qu'elle se brouillait avec chacun d'eux successivement, donc. Mais donc, c'est eux qui dessinaient. Elle racontait. Et elle racontait, c'était comme un conte de fées. Enfin, certains s'en souviennent, c'était même, c'était du André Breton, m'a dit l'un d'eux. Enfin, c'était totalement surréaliste. Et il fallait que les architectes, les dessinateurs, traduisent en dessin, en plan. Mais le résultat était à la hauteur de ces récits. Mais...
J'aimerais une maison où il y a 5 ou 6 endroits où on peut s'installer pour consommer quelque chose avec quelqu'un. J'aime pas l'idée de la pièce à thème. J'aime pas l'idée d'une chambre à coucher où on ne pourrait pas travailler, d'un bureau où on ne pourrait pas dormir, d'une salle à manger où on ne pourrait que faire une très belle table classique pour organiser un dîner classique. Je trouve ça très périmé, je trouve qu'on ne vit plus comme ça. Je pense que ce vide que je préconise, que j'aime, dont j'ai compris d'où il venait d'ailleurs, c'est des terrains libres pour utiliser les quelques meubles dont on ne peut quand même pas se passer d'une façon très très flexible. J'adorerais l'idée que on puisse facilement, le problème du déménagement et du poids des choses étant tout d'un coup oublié, tirer son lit dans une autre pièce, amonceler ses livres dans la pièce où on n'aurait jamais pensé à le faire. J'aime l'idée de la malle et de la et du voyage à l'intérieur du volume dont je suis chargé.
Entretien avec Gérard Julien Salvi. La fluidité des espaces, la malle toujours à portée de main, le voyage même dans un appartement. Évidemment, c'est une conception de ce que doit être un lieu, mais c'est aussi un état d'esprit et on a l'impression que précisément Putman est aussi cette femme qui cherche continuellement le changement, voire cette femme qui a besoin de fuir sans cesse quelque chose. Est-ce que c'est aller trop loin que de dire ça, selon vous ?
Non, je pense que c'est la femme qui s'en va, oui. Il y a d'ailleurs une photo d'elle de dos avec son petit sac à dos. Et c'est vraiment ça, oui. C'est la femme qui échappe. Elle ne veut pas rentrer dans des moules. Et elle ne veut pas être retenue. Elle est partout en même temps parce qu'elle est, c'est une socialite aussi, hein, pendant toute sa vie professionnelle. Elle est dans les soirées, dans les vernissages. Elle est peu chez elle. Alors, ce qui est contradictoire en même temps, c'est que chez elle, son intérieur, son loft, de la rue des Grands Augustins, rue de Savoie, qui a été tellement photographié, il n'a pas bougé d'un iota en 20 ans. Enfin, avec exactement les mêmes meubles au même endroit. Enfin, en tout cas, ce qu'on en voit sur les photos. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu avec elle, mais, donc voilà, il est assez vide en effet, il y a peu de choses, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et je pensais aussi en l'écoutant tout à l'heure que cette habitude de pouvoir dresser la table de salle à manger dans tel ou tel endroit, changer, c'est en même temps très français et très ancien parce que je crois que c'est comme ça que vivaient les seigneurs dans les châteaux. Enfin, on n'avait pas une salle à manger, c'était bourgeois.
Et les seigneurs faisaient beaucoup la fête et elle aussi faisait beaucoup la fête. Ouais. C'est une autre manière de fuir sans doute.
Oui. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui... Elle disait d'ailleurs que la fête, la nuit, faisait digérer le malheur du jour. Je pense que là aussi, quelqu'un de paradoxe, qui a eu des malheurs, qui avait peut-être une prédisposition à la neurasthénie, à une certaine tristesse. Et son père d'ailleurs était quelqu'un de très très triste et cyclotimique aussi. Mais qui a... voilà, qui a embelli sa vie et embelli celle des autres, en effet, en faisant la fête, en riant. C'était un pitre, elle pouvait être clownesque même par moments. Et cette voix là qu'on entend, très grave, parfois partait dans des... Elle s'esclaffait, quoi, et avec un rire très, très tonitruant.
Enfin. Et ça devait ravir les gens du palace, parce qu'elle fréquentait beaucoup les fameuses nuits du palace. Qu'est-ce qui vous semble, à vous en particulier, Sylvie Santini, le plus intéressant dans son œuvre, s'il ne fallait garder qu'une chose qui vous est plus chère, par exemple, qui vous serait plus chère à vous ?
Ben justement, ce n'est pas... Le livre est intitulé « Diva du design ». Ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un meuble. C'est un esprit, c'est assez impalpable. C'est ce vide, justement, c'est la non-couleur. La non-couleur et les contrastes du noir et du blanc. Et ça, j'ai l'impression, elle aspirait à ce que ce soit intemporel, et ça l'est vraiment devenu, parce que ça reste extrêmement moderne. Enfin,
il y a à la fois les années 80... Qu'on voit malgré tout dans son travail, et en même temps, en effet, ce côté très intemporel.
Très intemporel parce que, au vide et au mobilier, aux choses un peu noires et blanches, elle associait aussi des objets anciens. Enfin, il y avait aussi une accumulation de petits détails, d'objets qui pouvaient être complètement anachroniques, quelquefois kitsch. Et c'est ce mélange, moi c'est ça, c'est cet éclectisme et ce mélange qui me fascine.
Vous parliez tout à l'heure du côté un peu surréaliste de André Putman quand elle parlait de des projets qu'elle voulait faire, c'était aussi un petit peu surréaliste à la fin de sa vie quand elle racontait les visions qu'elle avait, parce que ça s'est terminé comme ça, la vie d'André Putman, avec un espèce de long départ vers l'ailleurs, disons.
Oui, c'est une horrible maladie même, enfin cette femme qui a tellement bien maîtrisé sa vie. À partir de 80 ans, peut-être même un tout petit peu avant, a dérapé dans une espèce de songe et avec des hallucinations. C'est la maladie à corps d'Eloïse, et qui est une dégénérescence grave.
Et pour en savoir plus, je suis obligé de vous faire un signe. On peut se reporter, Sylvie Santini, à votre livre La Diva du Design, André Putman, paru chez Talendier cette année. On termine comme chaque jour avec la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par Georges Marcabille de la librairie L'Atelier dans le 20e arrondissement de Paris, librairie membre du réseau Librest. Bonjour Georges Marc.
Et bonjour Mathieu.
Ça fait plaisir de vous retrouver.
Ça fait longtemps. Oui. La dernière fois c'était en février dernier, depuis il s'est passé ce qu'on sait, n'est-ce pas? Alors moi je suis vraiment content de revenir ici, surtout que je découvre un nouveau studio magnifique qui aurait certainement plu André Putman.
Il est noir et blanc en effet.
Noir et blanc, donc c'est vrai qu'on est passé par le confinement, la fermeture de la librairie pendant 2 mois, la catastrophe pour les lecteurs qui ont dû passer par Internet. Alors nous, on s'est battu grâce à Libresse.com notamment et la librairie.com pour pouvoir continuer à servir nos clients. Le déconfinement avec une bouffée d'oxygène énorme où tous les clients sont précipités sur les livres. Et nous, on a accueilli ça avec enthousiasme et ferveur. Et puis là, c'est la rentrée. Et là, on va parler donc de la rentrée littéraire. Et cette rentrée littéraire, ma foi, elle est quand même masquée, mais enthousiasmante, avec plein de bons livres. Donc, encore une fois, il a fallu faire un choix cornélien. Hein. Mais là, j'ai choisi de vous parler du dernier livre de Miguel Bonnefoy, paru chez Rivage, qui s'appelle Héritage. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas, moi, ça résonnait chez moi dans cette rentrée un peu étonnante. Héritage, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui a dû fuir son pays, la France, suite à une épidémie. Ah! Oui, une épidémie sur les vignes, la phylloxéria, à la fin du 19e, qui a détruit toutes les vignes de France, ou quasiment, n'est-ce pas?
On s'en souvient bien, notamment dans le Bordelais.
Dans le Bordelais, mais dans le Jura aussi, figurez-vous. Et notre héros, lui, était dans le Jura et donc perd toutes ses vignes. Donc il décide finalement de vendre sa maison, de partir et d'émigrer en Californie, où il pense qu'il y a de l'avenir. Donc il met un pied de vigne qui a résisté au phylloxéra dans sa poche, 30 francs, et il traverse la mer. Et là, bim, il tombe malade. Alors il est débarqué au Chili. Et là, le Chili, pour lui, c'est une terre d'accueil. Et finalement, il va décider de s'installer là-bas. Et finalement, le Chili, à cette période-là, c'était la terre d'accueil de beaucoup d'immigrants européens, et notamment français. Donc il va s'y installer, y trouver femme, y faire enfant. Et là, on va suivre toute l'histoire de cette famille Lonsonnier. Et alors, pourquoi Lonsonnier? Parce qu'arrivé là-bas, ne parlant pas espagnol, quand on lui a demandé comment il s'appelait, lui, il a compris, on lui demandait d'où il venait. Donc il a dit Lons le Saunier, et finalement, il s'est appelé Lonsonnier. Et voilà, on va suivre l'histoire de cette famille rebaptisée Lonsonnier, avec cette image de la France en arrière-plan, puisque tout migrant, je pense, a ses racines qui lui restent collées au basque. Il va avoir des enfants, ces enfants qui vont être Lazare, par exemple, qui va partir faire la Première Guerre mondiale avec deux de ses frères. Il va perdre deux de ses frères dans la Première Guerre mondiale, mais va revenir avec un poumon en moins, mais une énergie incroyable. Avec Margot, qui, elle, va participer à la Deuxième Guerre mondiale. Margot, qui va être la fille de Lazare et qui va réussir à vivre sa passion d'aviatrice. Mais pendant cette Seconde Guerre mondiale, elle va perdre son amant et ami Hilario, et avec Hilario Do, son fils qu'elle a eu toute seule, et qui lui va subir, il va vivre la montée du marxisme au Chili, avec notamment l'arrivée au pouvoir d'Allende, mais aussi la mort d'Allende et la prise de pouvoir de la junte militaire avec Pinochet et la CIA derrière tout ça. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un roman qui nous traverse tout ce 20e siècle, mais avec une énergie et une beauté et une histoire familiale magnifique.
En tout cas, un roman qui vous a enthousiasmé, Georges Marc. On peut venir vous écouter en parler en tête à tête à la librairie de l'Atelier, du lundi au dimanche matin, c'est ça?
C'est ça, toujours. Voilà.
Rue du Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. Merci.
Merci.
écoutez La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Pascal Baudin. Demain, Maryse Quinton nous parlera non pas d'un, mais de deux artistes, les designers et architectes Charles et Ray Eames, mais évidemment davantage de Ray Eames dans cette semaine consacrée aux femmes designeuses et architectes.